Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, on retrouve nos petits curieux. Salut.
Bonjour Christelle.
Salut Christelle. Vous savez, on est grand, hein, vous dites petit, mais on est grand quand même.
J'aime bien dire affectueux. Les petits curieux.
Et on met des talons parfois aussi, surtout Thomas.
Ça, oui, moi, c'est mon
ça, je veux voir.
C'est ma marque de fabrique. Ben, venez. Vous êtes la bienvenue dans le studio de curiosité. À tout de suite, Christelle.
À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle semaine de curiosité sur RTL. Vous connaissez nos grandes thématiques, science, histoire, musique, nature, grand destin. Tous ces thèmes nous passionnent avec Sidonie. Bonjour.
Ça va Thomas?
Ça
bonjour
va
à tous. Et justement, un grand destin au programme tout à l'heure. Le chef des chefs, Monsieur Paul, alias Paul Bocuse. Le triple étoilé s'en est allé il y a un an. Mais qu'est-ce qu'il fait encore causer? Il était doué, gouailleur, bon copain. Et même, vous allez le découvrir, une vraie rockstar qui faisait des tournées dans le monde entier. On vous raconte son destin foufou vers 14h30.
Mais d'abord, on vous emmène dans l'enfer des prisons américaines.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'acte d'accusation est intitulé « Les États-Unis d'Amérique contre Frédéric Piaucci ». Les procureurs cumulent 1,5 million de pièces au dossier. Frédéric Piaucci calcule qu'il lui faudrait 68 ans pour tout lire.
La curiosité est un vilain défaut.
La date, le 14 avril 2013, correspond à celle de son arrestation à l'aéroport JFK de New York.
Sur RTL.
En regardant le mur de la prison d'en face.
Bonjour Frédéric Piaucci.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Je ne sais pas si vous écoutiez du Yves Duteil dans votre prison américaine. Vous êtes un ancien dirigeant d'Alstom. Vous avez passé plus de deux ans en deux fois hein, dans une prison des États-Unis. Vous êtes tombé dans un piège. C'est ce que vous allez nous raconter. D'abord, je voudrais juste qu'on prenne conscience. C'était quoi votre vie avant ce 14 avril 2013, le jour de votre arrestation?
À l'époque, je dirige une des filiales d'Alstom basée à Singapour. Donc, je suis marié, j'ai quatre enfants, j'ai une vie d'expatrié classique. J'ai passé 20 ans dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Chine, en Algérie, en Angleterre. Et donc, tout va bien. Je suis envoyé à Singapour en fait pour fusionner une partie de mon activité avec un groupe chinois. Et j'ai une vie classique d'expatrié.
Votre femme et vos enfants vous avez une vie de famille classique. Vous avez une épouse, des enfants, et du jour au lendemain, tout va basculer. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'allais aux États-Unis à peu près tous les trois mois, et donc lors d'un de mes voyages, le 14 avril 2013, en arrivant à l'aéroport de Kennedy à New York, je suis arrêté à ma descente d'avion, menotté, mis dans une voiture banalisée et amené au siège du FBI à Manhattan.
Attendez, vous faites un voyage en avion, vous arrivez, vous êtes arrêté, vous avez quand même l'idée, vous saviez que vous risquiez quelque chose ou vraiment vous tombez des nues quand vous êtes arrêté?
Absolument pas, je tombe complètement des nues, je ne sais même pas pourquoi je suis arrêté. Les policiers du FBI ne savent même pas pourquoi ils m'arrêtent, ils ont juste ordre de m'amener au siège du FBI. En fait, ma mise en examen avait été gardée sous scellé, j'avais été mis en examen 6 mois plus tôt, mais le procureur avait décidé de le garder sous scellé.
Et donc vous arrivez au siège du FBI, vous êtes quoi, attaché à un poteau, à un mur? Comment ça se passe?
Je suis menotté dans le dos, ensuite je suis attaché à une barre de fer scellée au mur. Et là, après quelques heures, un procureur vient me voir et me dit « Voilà, Monsieur Piaucci, votre entreprise, Alstom, est sous enquête du Department of Justice, donc du ministère de la Justice américain, depuis plus de 3 ans. Votre PDG a décidé de ne pas coopérer avec les autorités américaines. On a perdu patience et donc on a décidé de vous arrêter. »
Et il vous fait une proposition. Qu'est-ce qu'il vous propose, ce procureur américain?
Alors, il me demande de ne pas appeler ni l'ambassade, ni le consulat, ni l'entreprise. Ouais. Et en fait, je comprends à demi-mot qu'il souhaite que je joue la taupe, l'infiltrer à l'intérieur de l'entreprise. La cible étant le PDG du groupe qu'il souhaite mettre en examen.
Qui s'appelle Patrick Cron, qui était le PDG d'Alstom à l'époque.
Frédéric Piaucci, vous imaginez libéré sous caution, parce que vous n'êtes pas un criminel. Vous dites que vous allez sortir au bout de quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, je passe cette première nuit en prison à Manhattan parce que je refuse ce deal qui est proposé par le procureur. Et le lendemain, on m'amène dans un tribunal à Bridgeport où là, je demande la libération sous caution et la juge décide que, étant français et que la France n'extradit pas ses ressortissants, j'étais ce qu'il s'appelle un flight risk. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vivre dans un appartement avec des gars de 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec mon passeport pris, avec un bracelet électronique. Pour eux, il y avait un risque, malgré toutes ces mesures, je prenne l'avion et je revienne en France et que la France me garde en fait et que je me réfugie en France. Voilà.
Donc il vous envoie en prison.
Donc voilà, à partir de là, c'est le cauchemar, parce que là, on me met dans un fourgon blindé, là, on m'enchaîne aux pieds, on m'enchaîne aux mains, on met une chaîne autour du torse, un peu comme les détenus de Guantanamo, et on me met dans un fourgon blindé, destination prison de haute sécurité de Wyatt dans le Rhode Island.
Alors, on va raconter comment ça s'est passé dans cette prison, votre arrivée dans cette prison. D'abord, il faut comprendre, est-ce qu'il se base sur quelque chose? Sur quoi il se base? Sur quoi se base la justice américaine pour vous envoyer en prison? Il y a un fait délictueux au départ, il y a quoi?
Alors, Alstom était sous enquête de corruption de plusieurs juridictions, et notamment du ministère de la Justice américain, pour des faits de corruption qui dataient des années 2003-2004, donc 10 ans auparavant, oui. Sur un marché en Indonésie.
Vous peut-être rappeler un peu ce que fait comme business Alstom, oui. Parce qu'on ne le sait pas tous.
Alors, Alstom construit des grandes centrales électriques, mm-hmm. et des trains, le TGV, des métros, etc. Mm-hmm. Donc des grands projets d'infrastructure. Et le procureur m'accuse d'être au courant qu'Alstom, sur ce contrat, a embauché des consultants qui ont payé des pots de vin afin d'obtenir ce marché.
D'accord, ça c'est la base de départ. On est dans une forme de guerre secrète, de guerre commerciale entre les États-Unis et la France ou même l'Europe. C'est de ça que vous êtes le jeu, le pion?
C'est cela. Les États-Unis sont des autodéclarés gendarmes du monde en termes de poursuite sur des affaires économiques. Ouais. Et donc, on crée tout un tas de lois extraterritoriales. Alors, ça veut dire quoi, extraterritorial? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, ou à partir du moment où des emails sont échangés entre employés qui transitent par des serveurs qui sont basés aux États-Unis, mm-hmm. les États-Unis ont juridiction sur toute l'entreprise. Et donc, à partir de là, ils mettent en examen, ils attaquent des entreprises en très grande majorité européenne. Mmh. Depuis 2010, rien que les entreprises françaises ont payé 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain suite à ces différentes lois extraterritoriales. Mmh. Donc, loi contre la corruption, loi contre les embargos, mmh. etc. Ça fait à peu près 2 milliards de dollars par an qui partent de la France vers le Trésor américain.
Frédéric Piaucci, je rappelle que vous avez refusé ce que vous proposait à demi-mot ce procureur, devenir une taupe chez Alstom pour faire tomber le PDG de l'époque. Vous voilà donc envoyé en prison. Vous racontez cette histoire dans Le Piège américain. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Dans un instant, sur RTL, avec vous, on va donc rentrer dans cette prison de haute sécurité. Ben, vos voisins de cellules, ce sont les pires criminels, tout simplement. À tout de suite sur RTL.
14h-15h.
Au sens figuré, un lampiste est un employé subalterne sur lequel retombe la responsabilité des fautes imputables à ses supérieurs.
RTL.
Le livre Le Piège américain laisse penser que Frédéric Pierucci a été le lampiste d'Alstom.
La curiosité est un vilain défaut.
Bon, alors écoute pas bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart ne veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question.
Jean Gamin qui connaît la question dans le film d'Henri Verneuil. Extrait de Mélodie en sous-sol. Et puis le générique, si vous suiviez cette série très très bonne de Prison Break, et ben c'est un peu Prison Break en vrai dans la curiosité avec notre invité, un cadre dirigeant d'Alstom qui se trouve piégé dans la guerre économique entre les États-Unis et la France, accusé de corruption et jeté dans une prison de haute sécurité. C'est l'histoire que l'on raconte de vous, Frédéric Pierucci. D'ailleurs, aujourd'hui, vous n'êtes plus chez Alstom. Vous avez été lâché par l'entreprise?
C'est cela. Lorsque je suis arrivé à Wyatt, j'ai tout de suite demandé à ce que...
Donc la prison de haute sécurité américaine.
Donc j'ai tout de suite demandé à ce que des gens d'Alstom viennent me voir. Et en fait, personne ne vient me voir. Les contacts
avec
ma famille...
On vous répond quoi? On vous dit quoi, en fait?
On me dit rien. En fait, moi, je ne peux même pas... Ouais. J'ai même aucun contact avec eux. J'ai un contact via simplement un avocat qui m'a été trouvé par Alstom, ce qui était une bêtise, parce qu'en fait, il y a un conflit d'intérêts énorme, si vous voulez, dès le début. À partir du moment où vous êtes défendu par un avocat qui lui-même défend l'entreprise, vous avez un conflit d'intérêts dès le début.
Donc, vous comprenez tout de suite, Frédéric Pierucci, que votre entreprise, Alstom, vous lâche, en fait. Voilà. Vous êtes seul au monde dans une prison américaine sous haute sécurité.
Voilà. Très vite, ils arrêtent tous les contacts avec ma famille. Mm-hmm. Ils refusent de venir me voir. Un peu plus tard, ils arrêteront de payer mes avocats. Et surtout, ils me licencieront pour abandon de poste après quelques mois de prison.
Ouais, on va raconter cette prison américaine de l'intérieur. Mais d'abord, pour bien comprendre, vous nous aviez tout à l'heure qu'on était dans une guerre secrète, une guerre commerciale. Le principal concurrent d'Alstom, c'est l'américain General Electric. Et un an après, vous êtes en prison, vous regardez la télé. Et là, surprise, qu'est-ce que vous apprenez ?
Alors là, j'apprends que General Electric est en train de racheter 70% d'Alstom. Et là, je comprends tout de suite pourquoi je suis encore en prison. Au début, je devais sortir au bout de 6 mois. Ouais. Et en fait, au bout d'un an, je suis toujours dans cette prison de haute sécurité. Et je ne comprends pas pourquoi. Mes avocats ne comprennent pas pourquoi non plus. Et là, je comprends que tout est lié. En fait, on m'a utilisé pour faire peur au PDG d'Alstom, pour le forcer à coopérer avec la justice américaine et éventuellement, à la fin, pour vendre une partie d'Alstom, la plus grande partie d'Alstom, à son grand concurrent. Et ça, je le comprends à partir du moment où il y a cette dépêche de Bloomberg qui tombe sur les écrans en avril 2014, donc après un an d'emprisonnement.
Et donc, vous vous retrouvez dans cette prison de haute sécurité, la prison de Wyatt, dans l'état de Rhode Island. Elle ressemble à quoi, cette prison ? Comment vous réagissez quand vous arrivez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Et comment vous êtes traité ?
Alors, Wyatt est un sarcophage de béton, en fait. Hein. Vous n'avez pas de fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur. Ce sont toutes petites fenêtres. Vous ne voyez pratiquement rien. Tout est aseptisé. Vous êtes avec les plus grands criminels de la côte est des États-Unis. Donc, c'est assez anxiogène, quand même. Vous avez des fouilles au corps constamment. Vous avez beaucoup de gens qui tombent malades, qui ne sont pas soignés. Vous avez des bagarres.
Mais vous êtes un VIP quand même, vous êtes un patron français, donc vous avez votre petite cabine à vous quand même si elle est petite et sans fenêtre.
C'est une cabine qui est un dortoir de 54 personnes, donc avec des lumières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des toilettes
sans porte. Vous pouvez pas dormir. Enfin, si, vous pouvez, mais de fatigue, quoi.
Vous essayez. Non, il n'y a absolument aucun traitement de faveur. Je suis mis avec tout le monde. Pendant 9 mois, je ne vais même pas pouvoir aller dans une cour, respirer l'air frais. Donc pendant 9 mois, je vais être effectivement à l'ombre. Mmh.
Vous racontez cette histoire dans Le Piège américain, ce livre publié chez Lattès, avec, moi, ce que j'imagine d'une prison de haute sécurité. Est-ce qu'il y a des bandes ethniques, les latinos d'un côté, les blacks, les blancs, les asiatiques ? Comment ça se passe ?
Oui, tout est très codifié. Vous avez déjà dans une seule salle, une salle commune, vous avez 3 télés, une télé pour les blancs, une télé pour les noirs et une télé pour les hispaniques. Et chacun doit s'asseoir plus ou moins en face de sa télé et manger plus ou moins avec son groupe ethnique. Il y a très peu d'interconnexion entre tout ce monde et tout le monde se soutient à l'intérieur de son propre groupe ethnique.
Est-ce que vous êtes briefé, Frédéric Pierucci, quand vous arrivez dans cette prison ? Souvent, on voit dans les séries américaines, il y a une personne qui va voir le petit nouveau et lui dit « Attention, fais gaffe à ces gars-là » ou « Fais pas ci, fais pas ça ».
Alors, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que après un mois dans cette prison, j'ai rencontré quelqu'un qui est en fait le dernier survivant de la French Connection. Donc, en fait, c'est un Américain, un Italien du Bronx, et qui a passé 4 ans en prison en France. Au moment où je le rencontre, il a 73 ans, dont 36 ans de prison derrière lui.
Il parle français ?
Et il parle français, parce qu'il a passé 4 ans en prison en France. Et donc, nous sympathisons parce qu'il veut parler français, donc comme je suis le seul avec qui il peut converser, nous sympathisons, si on peut dire sympathiser dans ce contexte-là. Mm-hmm. Et effectivement, il va m'aider beaucoup à m'insérer et à m'apprendre les codes de la prison. Effectivement.
Il vous a protégé ?
Il m'a protégé, bien sûr.
Pendant ces 2 années de prison, Frédéric Pierucci, la justice américaine cherche à vous faire craquer. Elle vous menace d'une peine de 125 ans. Comment allez-vous sortir de ce piège ? Récit à venir sur RTL.
Jusqu'à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Comment longtemps que je suis ici ?
Il n'y a qu'un an et demi.
Même pas, monsieur, 17 mois.
Thomas Hugues.
Vous savez pas ce que c'est que 17 mois pour un homme en prison.
Sidonie Bonnec.
Maintenant, tout est perdu. Il me paraît impossible de s'évader de votre cachot.
Sur RTL.
Le comte de Monte Cristo et les récits d'incarcération pour notre invité, c'est longtemps, comme pour nous tous, resté une fiction. Et puis un jour, sa vie a basculé. Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant chez Alstom, incarcéré pendant plus de 2 ans dans une prison haute sécurité aux États-Unis. Frédéric Pierucci, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle que vous êtes arrêté à la descente de votre avion, 14 avril 2013. Piège tendu par les autorités américaines qui mènent une guerre commerciale aux grands groupes français et européens. Vous serez un pion sacrifié. Alstom finira par vendre 70% de son activité, sa branche énergie, à l'américain General Electric, principal concurrent. Voilà pour le contexte. Pendant ces plus de 2 ans passés en prison, Frédéric Pierucci, est-ce que vous avez pu avoir quelques contacts avec votre famille, avec votre femme ou vos 4 enfants ?
Alors, déjà, je n'ai pas voulu que mes enfants viennent me voir en prison. Mmh. Mais par contre, mon épouse est venue me voir lorsque j'étais dans cette prison de haute sécurité à Wyatt. Elle est venue une fois, on a pu se parler à peu près 2 heures au téléphone via une vitre blindée, donc j'ai pas pu la prendre dans mes bras. Et ensuite, mon père et ma mère aussi et ma sœur sont venus aussi me rendre visite.
Tout est payant dans cette prison. C'est une prison qui est gérée par une société privée. Est-ce que tout est payant?
Alors, tout est absolument payant. En fait, vous devez même acheter votre propre bol et vos propres cuillères, votre propre brosse à dents. Tout est absolument payant. Mmh. Ils font des économies absolument sur tout. Ils embauchent les gardiens les moins chers possibles. Et donc, voilà, tout est le moindre dollar est compté. Mmh.
Frédéric Pierucci, l'un des objets les plus précieux dans cette prison, vous le racontez dans votre livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est un gobelet en plastique. Déjà, combien il vous a coûté, est-ce que vous le savez? Et à quoi ça sert, un gobelet en plastique en prison, de haute sécurité?
Il m'a coûté à peu près $1. C'est effectivement l'objet le plus précieux, parce que c'est avec cet objet que vous pouvez boire. Il n'y a pas de fontaine, en fait, dans là où j'étais incarcéré, d'eau. Et donc, tous les jours, un bac de glaçons nous était amené dans le pod, là où...
C'est quoi le pod?
C'est le quartier où j'étais gardé.
Ouais.
Et donc, vous avez ce bac de glaçons, et chacun allait avec son verre le remplir de glaçons. Et ensuite,
vous étiez une cinquantaine dans ce quartier, c'est ça?
Voilà, ouais. on était une cinquantaine.
Attendre que les glaçons fondent, quoi. Faut pas avoir trop soif.
Non, en fait, il y a un distributeur d'eau bouillante. Donc, ouais. Vous mettez aussi vos glaçons sous l'eau bouillante pour pouvoir avoir de l'eau. Quoi. Et quand il n'y a plus de glaçons, il n'y a plus d'eau.
Et vous mangez quoi, Frédéric Pierucci? C'est quoi le menu d'une prison comme ça?
Alors, c'est indéfinissable ce qu'on mange. À part 3 fois par mois, on avait une cuisse de poulet. Donc ça, je savais à quoi ça ressemblait.
Sinon,
après, le reste, je ne sais pas trop.
C'était de la bouillie?
C'était une espèce de bouillie, etc. Donc il y avait...
C'est pourquoi? Pour vous faire craquer? Pour vous punir? Pourquoi on mange si mal?
En fait, c'est un souci d'économie. En fait, ils doivent dépenser $1 par jour par prisonnier. Et donc, voilà, ils achètent à peu près tout ce qu'ils peuvent avoir pour $1, quoi.
Vous avez maigri pendant ce séjour en prison. Comment ça s'est passé? Physiquement, vous avez été transformé?
Complètement. J'ai perdu à peu près 20 kilos. Mais en fait, vous perdez tous vos sens, en fait. Parce que, en fait, comme vous ne touchez personne, vous ne touchez que des choses matérielles, vous respirez toujours le même air, vous ne voyez pas très très loin, parce que... Et donc, vous commencez à perdre très rapidement tous vos sens, en fait, parce que vous êtes en prison.
Il faut se doucher habillé. On imagine pourquoi ce danger-là, ce risque de l'agression, vous l'aviez en tête en permanence?
Il y a eu de très nombreux viols pendant que j'étais là-bas. Il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu des meurtres, il y a eu des suicides. Donc, effectivement, on est toujours sur sa garde. Il ne faut pas regarder quelqu'un, il ne faut surtout pas trop dire pourquoi on est là, mais en dire suffisamment pour ne pas être considéré comme un pédophile, etc. Donc c'est extrêmement complexe.
Et vous viviez dans le silence, c'est ça? L'idée, c'est de se taire au maximum quand on est dans ce genre de prison?
Vous devez quand même en dire un minimum. Pour qu'on comprenne un peu pourquoi vous êtes là. Mmh. Mais en fait, vous ne pouvez pas rester dans le silence. Donc forcément, vous avez quelques amis, en fait, que vous créez, parce que vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les mêmes personnes. Donc, il faut bien... Est-ce qu'il y a une certaine communication?
Ouais.
Il faut bien socialiser. Donc, bien sûr, vous créez des liens qui sont d'ailleurs assez forts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Frédéric Pierucci, ancien cadre dirigeant chez Alstom, nous raconte le piège américain dans lequel il est tombé fusible d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la France et l'Europe même. Vous avez passé, je le rappelle, plus de 2 ans dans une prison haute sécurité avec des criminels endurcis. L'un de vos voisins de dortoir, si j'ose dire, c'était le bras droit d'El Chapo, le chef de l'un des cartels de la drogue au Mexique. Vous avez finalement été condamné à 30 mois de prison, $20 000 d'amende. Vous êtes sorti en septembre 2018. Qu'est-ce qui vous vous manquait le plus? C'est quoi le premier geste que vous avez voulu faire en sortant? Peut-être il y a la famille, évidemment, mais sinon dans les...
Bien sûr, il y a la famille, les enfants, mon épouse, etc. Mais l'un des premiers gestes, c'était d'aller me promener en forêt. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un environnement absolument dépourvu de toute végétation, etc., en fait, vous avez vraiment besoin de retrouver l'air, de retrouver de l'herbe, de retrouver des arbres.
De retrouver vos sens, parce que vous disiez que tous vos sens étaient amoindris.
Voilà. De retrouver l'odorat, de retrouver le toucher, de toucher des gens.
De toucher des gens, ouais.
Effectivement.
Et le premier bon repas, c'était quoi pour sortir de la bouillie de la prison? Un bon steak?
Oui, un bon steak, c'était très extrêmement simple.
Est-ce que vous retournerez aux États-Unis, Frédéric Pirouchi?
Déjà, je n'ai pas le droit d'y retourner, donc ouais. Ça tombe bien, parce que je n'ai pas vraiment envie d'y retourner. Donc,
Le dossier, il est fini? Le dossier judiciaire? Vous avez été condamné il y a plus
de... Oui, j'ai été condamné, j'ai purgé ma peine de 30 mois, donc le dossier est fini.
Est-ce qu'on peut oublier qu'on a passé des mois et des mois en prison? Est-ce que ça revient la nuit, le jour? Ça hante un petit peu?
Alors j'ai beaucoup de chance, j'ai pas de cauchemar, tout se passe bien, donc on me pose souvent cette question, mais non, j'ai pas, tout se passe très bien.
Tant mieux.
Écoutez, bon vent à vous dans cette vie retrouvée. Merci. Le piège américain, Frédéric Pirouchi, avec Mathieu Aron qui vous a accompagné pour écrire ce livre. Il est donc publié aux éditions Lattès. Merci, à bientôt.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.